Va,
vous êtes prête pour l'interview? Votre invité ce matin est auteur, compositeur, interprète. Et je crois que vous l'aimez beaucoup.
Oui, je l'aime beaucoup. Oui. Je pense que tout le monde a compris ce matin voilà. À France Inter. Oui, on a des petits plaisirs coupables dans la vie. Bonjour Benjamin Biolay. Merci d'être là. Vous sortez Grand Prix, un nouvel album, le 10e, premier single, celui-là.
Comment est ta peine? La mienne est comme ça. À toucher le bas, il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Comment est ta peine, Benjamin Biolay, ce matin?
Oh, comme si, comme ça. C'est toujours la même chose. Ça n'a pas bougé.
Vous sortez, comment vous sortez de cette période de déconfinement? Encore plus mélancolique qu'avant ou plutôt régénéré artistiquement et idéologiquement?
Plutôt régénéré artistiquement et idéologiquement. Après, la mélancolie, c'est pas forcément quelque chose qui me déplaît. C'est une forme de rébellion, un peu, la mélancolie, en fait. C'est refuser certaines disparitions, certaines absences, c'est...
Quelle disparition vous refusez, par exemple?
Mais moi, ma vie est une vie de rupture. J'ai quitté ma petite ville très tôt, puis après, je suis allé m'installer dans une ville que j'adorais, qui s'appelle Lyon, puis après, j'ai dû venir à Paris, etc. Donc, j'ai l'impression d'avoir laissé beaucoup, beaucoup de gens sur la route. Et c'est souvent, quand cette mélancolie arrive, je la ressens comme une force, comme une... Ouais, le dernier endroit de ma rébellion, quoi, parce qu'en vieillissant, ça s'agit un peu...
Oui, et puis la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, il paraît. Je crois que j'avais lu ça.
Oui, un peu. Puis dans la pop musique, ça fait partie. C'est un peu le Saint Graal de réussir à faire des chansons un peu rythmées et mélancoliques. C'est quand même ce que j'ai toujours cherché à faire, par exemple.
Alors, si on écoute les paroles de cette chanson, comment est ta peine, la mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. C'était quasiment prémonitoire, non?
J'en ai peur.
Didier Raoult. Non, mais c'est vrai, est-ce que...
Oui, c'est vrai qu'à un moment, on a hésité à sortir cet album et ce titre, etc. Et en fait, en le réécoutant, c'est malheureusement rendu compte qu'il était terriblement d'actualité, même si c'est un peu sibyllin ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans cette situation.
L'album s'appelle Grand Prix parce que c'est un hommage à l'une de vos passions avec le football, à savoir la course automobile. Vous connaissez absolument tout de la F1, de la vie des pilotes, de leur palmarès. Qu'est-ce qui vous attire dans cet univers-là? C'est la vitesse, c'est le danger, la peur de mourir, ou c'est la Madeleine de Proust, c'est le retour à votre enfance et les Grands Prix que vous regardiez à la télé avec votre père?
Il y a forcément la Madeleine de Proust ça avait beaucoup d'impact sur moi, les monoplaces, y compris les sponsors, et je crois que si j'ai le malheur de fumer, c'est à cause de la voiture Lotus, qui avait un sponsor de cigarettier que j'adorais. Je savais pas ce que ça voulait dire, ces trois lettres, mais c'est les premières cigarettes que j'ai achetées, par exemple.
Ah oui.
Donc ça n'a pas eu que des influences positives sur ma vie. Mais non, c'est la passion de ces pilotes pour leur métier, quoi.
Vous dites, la vie des pilotes m'a toujours fasciné d'un point de vue romanesque et quasi shakespearien.
Ah oui, parce qu'il y a eu beaucoup de drames qui étaient très shakespeariens. J'avais fait mon premier album, c'était sur la famille Kennedy. Je n'avais aucune acquaintance pour leur politique en général, sauf Robert. Mais j'avais été fasciné par leur destin qui d'ailleurs continue. Je pourrais faire un tome 2 avec tous les neveux et petits-enfants à qui il arrivait des ennuis.
Et chez les pilotes, il y a qui? Ayrton Senna,
par exemple, qui était un dieu vivant, qui était triple champion du monde et qui s'est tué en direct. Et moi, je me rappelle très bien de ce jour parce que je me suis levé en disant, tiens, il y a un an, Pierre Bérégovoy est mort, et c'est un suicide qui m'avait beaucoup touché. Et j'ai regardé ce Grand Prix, et là, j'ai vu un autre de mes héros mourir en direct. Ça a été un choc terrible. Mais il y a aussi Jules Bianchi, qui allait devenir un immense pilote, un immense champion, et qui a pas eu le temps d'aller au bout de son rêve, et ça m'a beaucoup touché.
Alors il y a la Formule 1, donc, dans cet album, il y a aussi les femmes, avec vous c'est obligé. On retrouve trois femmes importantes de votre vie, Karen Anne, Chiara Mastroianni et Anaïs Desmoustiers. La musique, c'est une manière pour vous de s'aimer autrement?
Il y a aussi Anna Biolay qui chante, ma fille. Donc,
oui, c'est vrai, femme de votre vie.
Donc, c'est une façon de... En studio, j'aime bien qu'il y ait ma famille de cœur, enfin... Et les voix de femmes, je trouve ça très important dans mes albums, parce que j'ai une voix assez, pas monocorde, mais assez médium grave. Et les voix de femmes donnent une lumière que je trouve nécessaire à mes disques pour pas qu'ils soient trop sous-exposés, trop noirs.
Il est plus intime, celui-là. Il y a plus de vous.
Étonnamment, je me suis retranché derrière un concept album, comme souvent, et en fait, je me suis mis un petit peu à nu dans les textes, oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce qu'on découvre de vous ?
Je sais pas, je m'en rends pas compte, j'ai pas trop réécouté maintenant.
Ouais. En tout cas, ce nouvel album est célébré par les Inrock et Télérama. Bon, ça c'est normal, pour quelqu'un comme vous, mais aussi par le Figaro et les Échos. C'est plus étonnant, c'est pas ennuyeux, un peu chiant de faire l'unanimité, Benjamin Biolay, pour un mec comme
ça. Ça m'est pas toujours arrivé, à mon avis, ça n'arrivera pas toujours, donc dans ce cas-là, on touche du bon, on en profite, parce que c'est quand même nécessaire de remporter un peu l'adhésion des gens, même des gens qui par exemple savent que mes convictions politiques sont pas vraiment les leurs, mais moi je trouve ça important de me considérer comme un artiste, et dans ces cas-là complètement...
Donc ça vous fait plaisir, l'article des Échos, Dominique Seux est à côté, il est dithyrambique.
Mais ouais, non, mais j'étais content, évidemment, et tout, c'est très important pour moi.
Il y a deux voix qui ont particulièrement marqué cette période de confinement, la lettre réquisitoire de Vincent Lindon, fustigeant avec virulence le gouvernement, et la lettre d'intérieur à Augustin Trapenard de Michel Houellebecq, disant en substance que le monde d'après sera le même que celui d'avant, en un peu pire.
Êtes-vous... En même temps, c'est Houellebecq, hein, c'est...
Est-ce que vous êtes lindonien ou houellebecquien sur le coup, si vous analysez ce qu'on vient de vivre, ou les deux ?
Moi, je serais plus lindonien sur ce coup-là. Mais j'avais aussi adoré la tribune de Virginie Despentes dans Libération. En fait, quand les gens ont vraiment travaillé leur tribune et qu'on les reconnaît en tant qu'artistes, qu'on a l'impression que c'est vraiment eux qui nous parlent, eh bien, je trouve que là, ça a de l'impact. Plus que les longues lettres ouvertes qu'on fait où on signe à 150 000 et en fait, on ne sait plus trop qui a écrit ça et pourquoi. À qui ça s'adresse. Là, c'est des gens qui sont structurés, qui travaillent, et je trouve que c'est important, et ils prennent un risque, c'est courageux.
Ouais, ils prennent un risque.
Je salue le courage, bien sûr.
Ouais. Oui, parce qu'ils peuvent se... Et surtout, les artistes s'engagent de moins en moins, en fait.
C'est très compliqué, c'est très...
Avec les réseaux sociaux, c'est très difficile.
Oui, puis on a un entourage professionnel qui, je vous confirme, ne nous...
s'encourage pas à parler politique.
Bah, c'est normal. Ben, c'est des emplois en jeu et tout. Enfin, il y a tout un système économique que les gens n'ont pas l'air de comprendre en ce qui concerne le monde culturel, qui fait que moi, je suis le porte-parole, mais en tournée, on est 30, quoi. Donc
l'entourage vous dit attention de vous couper avec votre
public.
Non,
moi ça va, ils ont l'habitude de toute façon.
Vous êtes pas... Mais justement, sur les tribunes que vous avez signées, notamment dans Le Monde au moment du confinement, la pétition à Emmanuel Macron qui dit de ne pas oublier la culture, certains ont critiqué ces tribunes d'artistes en disant que c'est les artistes qui défendent leur caste, leurs privilèges, qui font ouin-ouin comme d'habitude, etc. Pourquoi est-ce que c'est injuste de dire ça ?
C'est injuste de dire ça, mais après c'est normal, parce que dans ces cas-là, on utilise un espèce de ton technocratique extrêmement condescendant et tout, qui ressemble en fait au ton des technocrates, et on fait jamais rêver, quoi. On montre pas qu'on est des artistes. Et on dit pas ça, on est aussi des chefs d'entreprise. Donc on a un peu le cul entre deux chaises, si j'ose dire. Et en fait, il faudrait soit faire rêver, soit être totalement technique et pragmatique. Mais là, il faudrait s'adresser aux autorités compétentes. Ça peut pas passer par la presse, je pense.
Pourquoi vous l'avez signé, du coup ?
Parce que j'ai trouvé le texte de Jeanne Balibar extrêmement écrit, bien écrit, et je voyais que ça venait vraiment du cœur. Et je voyais qu'il y avait un espèce de grand silence autour de tout ça, et j'ai voulu signer. Ouais.
Vous avez dit la culture, le gouvernement s'en fout.
Moi, j'ai dit ça de manière un peu radicale.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas un peu injuste.
C'était l'État s'en fout pas, le gouvernement, j'en sais rien. Après c'est des interviews post-confinement où vraiment mon moral était...
Donc là ça va mieux.
Tu peux.
Non, mais vous avez l'impression que la culture a été oubliée, ou qu'il y a quand même des choses qui ont été dites et qui ont été faites par Emmanuel Macron là ?
Je ne sais pas. J'ai pas eu l'impression.
Ah, l'année blanche pour les intermittents, par exemple.
Bah, c'était très important, bien sûr. Après, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, j'imagine, quoi. Mais moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit, je pense que le message est bien passé.
Oui. Oui. On va pas y revenir, notamment sur le ministre de la Culture.
Non, vraiment, je tiens pas à faire de Franck Riester une espèce de bouc émissaire de tout ça.
Ça devient un peu facile.
Bien plus complexe. Il n'y a pas que le ministre qui décide de la politique culturelle en France. Donc.
Vous avez aussi dit notre métier est en train de crever.
Ça c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans une situation extrêmement précaire, quoi, dans un seuil d'indigence. Il suffit d'une facture impayée et tout peut partir, parce qu'il y a plus du tout de travail depuis un petit moment. Par exemple, ma tournée, elle est importante pour moi. Mais allez, c'est pas pour moi. Moi, je suis un chanteur, je peux rester 3 ans sans monter sur scène. Parce que ça, c'est notre jeune mécanisme, on écrit des chansons.
Mais pour ceux qui sont
tous
derrière.
Tous les techniciens, tous les musiciens, ils tiennent, par exemple, ma tournée, pour eux, c'est leur année de vie pour nourrir la famille, pour payer les loyers, tout ça. Donc, évidemment que c'est très important.
Vous répondez à un questionnaire dans Philosophie Magazine ce mois-ci, Benjamin Biolay, à la question « Quelle est la promesse que tu t'es faite ?» Vous avez répondu « Avoir une destinée personnelle ». Est-ce que la promesse est accomplie ?
Oh bah oui, moi j'ai de la chance d'être auteur-compositeur-interprète et d'être publié dans une maison de disques et que ça continue. Donc sincèrement, je pouvais pas rêver mieux.
L'album, nouvel album renversant de Benjamin Biolay pour citer les Inrocks, s'appelle Grand Prix. Il sort ce jeudi chez Polydor. Merci à vous et belle journée.
Bonne journée.
Merci Léa. Merci. Et j'ajoute un mot, Benjamin Biolay. Vous serez en concert ce vendredi 26 juin de 20h à 21h au studio 104
Absolument.
De la Maison de la Radio. Amis auditeurs, si vous souhaitez faire partie du public qui sera restreint pour raisons sanitaires, inscrivez-vous à 9h à partir de 9h sur le site maisondelaradio.fr.
Et faites-vous des jolis masques.
Voilà.